Un capital du divertissement pour quelques jours. Les paillettes, les votes improbables, hein, on connaît tout cela, les performances parfois extravagantes. Derrière ces refrains et ces costumes, Diane, et vous êtes là pour nous en parler tous les matins, il y a aussi une économie, l'économie du concours Eurovision de la chanson qui est très rentable.
Diane. Oui, plus de 170 millions de téléspectateurs suivent le concours à la télévision ou en ligne. Et sur les réseaux sociaux, les contenus génèrent des milliards de vues. À cette échelle, on n'est plus dans un simple concours de chansons, on est dans un méga événement international comparable à une grande compétition sportive ou à une exposition universelle. D'ailleurs, organiser un tel événement coûte cher. Très cher, la facture entre 20 et 30 millions d'euros par édition. Turin a déboursé 22 millions en 2022, Liverpool 28 en 2023, Malmö autant en 2024, Bâle a vu encore plus grand avec un budget de 40 millions l'année dernière. Et pour cette édition, Vienne, aux finances dans le rouge, a déboursé un peu plus de 22 millions d'euros en pouvant s'appuyer sur ses infrastructures déjà existantes.
Bref, organiser l'Eurovision, ça coûte cher. Qui paye cette facture?
Alors, c'est un assemblage de contributeurs publics-privés. D'abord, les pays participants. Chaque diffuseur national verse une contribution à l'Union européenne de radio-télévision, l'UER. Cette contribution, elle varie selon la taille du marché audiovisuel. Les plus petits pays paient autour de 100 000 euros. Les plus grands, autour de 500 000. Ensuite, il y a le diffuseur hôte, la chaîne publique qui organise l'événement, comme la BBC à Liverpool ou la SSR en Suisse, qui apporte généralement la plus grosse part, souvent entre 10 et 20 millions d'euros. C'est elle qui porte la production télévisuelle, réalisation technique, captation, retransmission. Troisième financeur, la ville hôte. Elle investit plusieurs millions pour les infrastructures d'accueil, les fan zones, la logistique urbaine, les transports et souvent une partie de la sécurité. Quatrième niveau, l'État ou la région. Il y a souvent une garantie publique complémentaire, surtout si le budget dérape ou si des investissements supplémentaires sont nécessaires. Enfin, les sponsors sont omniprésents, plateformes numérique, banques, entreprises du tourisme, réseaux sociaux, les billets qui se vendent parfois jusqu'à plusieurs centaines d'euros et même les votes du public qui rapportent de l'argent. Chaque SMS ou appel contribue au financement du concours.
Cette logique économique explique pourquoi, Diane, l'Eurovision a changé de dimension depuis les années 90.
Oui, c'est ce qu'évoque Dean Vuletic. Il est historien et spécialiste de l'Eurovision. Il parle d'une transformation en méga événement avec la montée du sponsoring, du merchandising, du télévote. L'UER a progressivement construit une véritable industrie du divertissement. Et il insiste sur un point, le gros avantage, il n'est pas financier. Il s'agit de la vitrine internationale qui est offerte à la ville hôte pendant plusieurs jours. Une ville devient en effet une vitrine mondiale. Elle montre ses infrastructures, sa culture, son atmosphère. Pour les pays organisateurs, l'enjeu principal est souvent l'image, hein, davantage que le profit immédiat. Prenez l'exemple de l'Autriche en 2015 avec la victoire de Conchita Wurst. Ça a repositionné l'Autriche comme un pays moderne, diversifié au-delà de son image très classique.
Donc, contrairement à l'idée reçue, l'Eurovision n'est pas un gouffre financier. C'est même souvent un investissement rentable.
Oui, prenons Liverpool. Selon une étude citée par l'historien et spécialiste de l'Eurovision, la ville britannique aurait généré plus de 60 millions d'euros de retombées économiques grâce à l'édition 2023. Hôtels, restaurants, transports, bars, location Airbnb. Pendant une semaine, toute l'économie locale tourne à plein régime. Même constat à Turin. Les autorités italiennes estiment que l'événement a produit jusqu'à 100 millions d'euros d'impact économique et médiatique.
Et pour autant, le risque financier, il existe toujours bel et bien.
Oui, certains pays ont même préféré renoncer à participer ou à organiser l'événement faute de moyens. Dean Vuletic rappelle que l'Irlande, victorieuse à répétition dans les années 90, avait fini par souffrir du coût de l'organisation d'Eurovision à répétition, au point qu'une vieille plaisanterie circule encore. Certains pays enverraient volontairement de mauvaises chansons pour éviter de gagner et donc de payer l'édition suivante. Bon, il y a d'autres pays qui renoncent aussi à participer pour des raisons budgétaires. En 2024, c'était le cas de la Bulgarie, du Monténégro, de la Macédoine du Nord. Mais François, globalement, chaque année, il y a tout de même un refrain qui revient en boucle.
Qui a remporté le concours Eurovision de la chanson en quelle année
74, François.
Bravo, mais pas avec Money, Money, Money.
Non.
C'était avec
Waterloo.
Waouh, vous connaissez vos classiques, c'est très très bien. Merci beaucoup, Diane Burgel-Vernet.